Radio Tarot, une émission pour explorer les archétypes sans tomber dans les stéréotypes. Tous les premiers du mois, je, Alice, cartomancienne, partage mon analyse des cartes du tarot. Un regard queer et féministe sur le monde ésotérique. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Radio Tarot. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, encore une fois, c'est un épisode un peu spécial. C'est un épisode avec une invitée et on pourrait dire que je suis moi-même l'invitée. Parce que aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon travail puisque cette émission est faite pour parler du tarot, des cartes, mais aussi de la pratique, de qu'est-ce qu'on peut faire des cartes. Et je réalise que c'est dur de pouvoir en parler sans qu'on me pose des questions. Alors j'ai invité Maria. Bonjour Maria.
Bonjour Alice.
Maria, aujourd'hui, tu vas me poser des questions sur mon métier. Mm-hmm. Merci.
Alors, Alice, c'est quoi pour toi le tarot ?
Alors, pour moi, le tarot, c'est avant tout un jeu. C'est un jeu qui est composé de cartes, en général 78, avec une structure à l'intérieur, comme tout jeu, avec on joue pour gagner des points, mais on peut jouer aussi pour regarder des choses à l'intérieur de soi-même. Je dis ça parce que je crois que c'est vraiment important de se rappeler que le tarot, c'est avant tout un jeu. J'ai remarqué depuis que je faisais mon métier que beaucoup de personnes en ont peur. Je ne sais pas si on a peur de l'outil ou si on a peur de la personne qui le manie. En tout cas, je crois que le tarot est un outil qui est moins dangereux qu'une scie circulaire.
Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le tarot ?
Je dirais pour commencer les couleurs. Et le fait de mettre des images sur des mots qui sont un peu compliqués. En fait, on pourrait dire qu'un jeu de cartes, c'est un ensemble de créations de une des artistes qui interprètent à leur manière des concepts. La première fois que j'ai eu un tarot entre les mains, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 5-6 ans. Je dis c'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça arrive régulièrement que des personnes racontent que c'est de famille, quoi. Souvent plutôt avec une transmission maternelle. Vu qu'on est dans le domaine du soin, de l'accompagnement et de l'écoute, c'est un domaine qui est très féminisé. Et si on rajoute en plus le fait qu'il y a une dimension, on va dire, un peu mystique, ou en tout cas pas complètement rationnelle, ça féminise encore plus la thématique. Donc je me suis retrouvée avec un jeu de tarot dans les mains. Et donc j'ai tiré une première carte. Et j'ai posé des questions autour de quelle attitude avoir pour pouvoir me centrer. Je pense que j'ai commencé à utiliser le tarot seul pour moins me perdre dans les problématiques des autres personnes. Ou en tout cas, une manière de me poser avec moi-même et de me rappeler que mes enjeux ne sont pas optionnels. Que lors d'une négociation, ce qui est important pour moi, ce qui m'est nécessaire, mon plaisir, ma joie, mes objectifs, ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais renier. Et donc, j'ai utilisé le tarot pour ça, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui m'était important, nécessaire, et pour pouvoir ensuite entrer en relation avec cela.
Est-ce que tu crois au tarot, Alice ?
Je crois à la possibilité de réflexion avec des images. Je ne suis pas sûre que le fait que sur telle question, ça soit telle carte qui sort arrive d'une puissance supérieure. J'estime les personnes pour qui c'est ça, pour qui c'est des déités, leur guide, leur tarot en lui-même. Moi, ce n'est pas mon cas. Alors, il y a cette zone grise qui est les cartes qui se répètent. Donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des cartes qui viennent, reviennent et reviennent. Et je me suis dit que c'était plutôt une blague qu'un signe. J'aime bien être à cet endroit-là, en fait. Être à l'endroit du jeu, être à l'endroit de... Je sais pas, pour moi, le tarot, c'est quelque chose qui t'invite à regarder autrement une situation et qui te fait des blagues. Bon, là, c'était une blague qui n'était pas très marrante, parce que la carte qui est revenue le plus régulièrement, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe est une carte sur laquelle on voit un personnage qui a la tête baissée, qui regarde trois coupes renversées et qui a derrière lui deux coupes qui sont encore pleines. C'est souvent une carte qu'on nomme celle du deuil. Et c'est arrivé dans une période où il fallait que j'écrive une chronique radio pour dire que l'émission dans laquelle j'étais allait se terminer. C'est le moment où donc j'apprenais le tarot, je tirais une carte par jour, pendant 5 jours. C'est le 5 de coupe qui est venu tous les jours. Donc je ne sais pas si j'y crois, mais ça, c'était le rappel de « il va falloir écrire cette chronique ». Il y a cette dimension donc de jeu, de « je vais revenir jusqu'à ce que tu fasses cette action qui est assez importante, qui était d'écrire une chronique pour dire « bah ça y est, c'est fini ». C'est triste, mais c'est fini.
Ces jeux de cartes, eh ben, est-ce que ces cartes ont aussi leur signification particulière par rapport à l'univers de créateurs, créatrices qui les ont créées ?
Oui, de la même manière qu'il y a un continuum entre psychologique et divinatoire, il y a un continuum entre projectif et, je vais dire ça, traditionnel à défaut. Mais en gros, donc là par exemple, si on prend le 5 de coupe, on a un personnage... On a 5 coupes. Ça, c'est la manière dont Pamela Coleman Smith, en 1910, a signifié la 5 de coupe. Mais il y a des personnes qui reprennent cette thématique et qui la dessinent autrement, ou qui vont mettre des détails. Et donc, ce qu'on va appeler le tarot projectif, ça va être de se concentrer sur un élément et de voir qu'est-ce que ça va évoquer chez nous. S'il faut, on ne va pas du tout regarder les coupes, on va regarder la fleur dans le coin et on va se dire « cette fleur-là, ça me rappelle ». La fleur qu'il y avait dans le jardin de ma grand-mère. Et donc là, on va être plutôt au niveau de la projection. À défaut, ce que je vais appeler traditionnel, c'est, on va dire, le 5 de coupe, c'est le deuil, et peu importe quelle va être la représentation décidée par le créateur ou la créatrice, on va dire, c'est le deuil. Et on peut choisir si on se laisse entrer dans des détails ou si on reste au niveau du mot-clé. Pour moi, les cartes de tarot, donc c'est un outil, mais c'est aussi... une œuvre d'art, d'une manière. C'est 78 tableaux qu'on peut regarder. A priori, si on reste juste du côté des interprétations de base, on n'a même pas besoin d'avoir des dessins, on peut juste dire « deuil » et on va tirer « deuil ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est un mélange entre un trait, une colorisation, une manière par un ou une créatrice de fabriquer quelque chose par rapport à ça. Et en sachant que sur les questions des interprétations traditionnelles, le tarot, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il a été créé. On peut se dire qu'assez tôt, des personnes ont eu envie de jouer avec des objets pour pouvoir prédire des choses. Et c'est vrai que dans le monde ésotérique, c'est une dimension que parfois on oublie. Mais donc, il y a des occultistes, des personnes qui se sont mis à faire des recherches sur plein de choses et qui ont... choisi de donner la paternité de tel outil, de telle idée à tel endroit. Quand des gens disent ça vient de là, ça vaut le coup d'aller vérifier quoi. Et bien souvent, on remonte aux origines et on dit des choses par rapport aux origines pour servir un certain discours et une certaine orientation politique. Par exemple, quand on dit que la démocratie est née à Athènes, eh bien, c'est un exemple très basique, mais on oublie que n'avaient pas accès à la démocratie certaines personnes, les femmes, les pauvres et les esclaves. Donc moi, je ne sais pas d'où vient le premier tarot. Je ne sais pas quelle est l'interprétation juste de la tempérance, par exemple, qui est une des cartes, mais je peux voir, en fonction de qu'est-ce qui en est dit, où se positionne la personne sur l'échiquier politique.
Et donc là, tu pratiques le tarot en tirant des cartes pour d'autres personnes. Comment cela se passe pour toi ?
Eh bien, je pense qu'avant d'oser tirer les cartes pour d'autres personnes, il a fallu que je me sente vraiment très, très sûre de moi. C'est-à-dire, un des classiques, en fait, quand on apprend quelque chose, c'est de ne pas avoir besoin de ses notes ou des notes de l'auteur. Et en général, les notes, c'est les livrets. Et donc, il a fallu que j'attende de pouvoir me passer de livret avant d'oser proposer des tirages de cartes à d'autres personnes. C'était encore une autre étape de me faire payer pour ça. Moi, j'ai appris le tarot principalement avec des ressources gratuites. Et un de mes critères, c'était d'aller vers des personnes féministes et de préférence vers des personnes queer. Je trouve que ces personnes ont tendance à être moins pédantes que d'autres et à pouvoir dire que les choses sont plusieurs à la fois. Et aussi parce que je suis féministe et je suis queer. Donc j'ai principalement appris sur YouTube, avec des podcasts. Ouais, j'ai appris en compilant, en écrivant et aussi en réfléchissant par moi-même, c'est-à-dire en jouant, en faisant des exercices. Récemment, par exemple, j'ai beaucoup réfléchi à la reine de coupe et je me suis demandé si la reine de coupe, donc qui est cette femme regarde une coupe avec attention et qui a l'air plutôt chill, je me suis demandé si c'était pas l'état dans lequel on était après une séance psy qui nous avait fait beaucoup réfléchir. Et ce que ça m'a fait voir sur la reine de coupe, c'est bien cette notion que je trouve intéressante avec elle, qui est on est en train de regarder des trésors, de comprendre des choses, mais on n'a pas besoin de les communiquer tout de suite. On a besoin de les ressentir, d'en faire le contour et de le faire doucement. Il y a comme de l'apaisement, mais aussi une réflexion qui n'est pas trop rapide. Et je me suis dit, ah oui, c'est intéressant pour la reine de coupe. Je ne me suis pas encore attaquée aux reines dans ce podcast, parce qu'en fait, on en dit tellement des choses fatigantes que ça sera pour plus tard. Mais je pense que c'est un des archétypes où vraiment... Parce qu'il y a aussi cette tendance de dire oui, dans les interprétations, les cartes ont leurs défauts et leurs qualités. Et alors les qualités des reines, voilà, elles sont ce qu'elles sont. Mais les défauts, c'est intense, quoi. Et ça rejoint cet enjeu de la plupart du temps, quand on fait de l'introspection, on est assez méchante avec nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez complexe dans mon métier, c'est que j'ai l'impression que la plupart du temps, les personnes veulent quelqu'un qui soit un peu méchante, qui va leur dire la vérité, qui va pas mâcher ses mots. Je sens qu'il y a une recherche autour de ça. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Enfin, ça me va d'aller droit au but, mais il faut vraiment que le lien de confiance soit créé pour que ce soit le cas. Enfin, on dit pas des grandes vérités aux gens après leur avoir dit bonjour, quoi. D'abord, on teste où est-ce qu'ils en sont. Enfin, je sais pas. Mais je sens qu'il y a une recherche autour de ça, quoi. Ça veut pas dire que je sais pas être frontale, mais d'abord, on va se rencontrer, quoi. Et donc, pour pouvoir te répondre plus spécifiquement comment ça se passe. J'ai une expertise dans le tarot, je connais les cartes, je sais les interpréter, mais je considère que l'espace où vraiment je brille, c'est celui de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les questions. C'est-à-dire, c'est d'avoir une situation qui m'est donnée, qui m'est exposée, et de pouvoir voir par quel angle venir l'interroger. Et qu'est-ce qui pourrait être intéressant à comprendre ? Parce que, soyons sincères, quand on commande un tirage de tarot, c'est rarement la période la plus faste de notre existence. C'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui revient et qu'on aurait envie d'un éclairage un peu différent sur une situation. Moi, l'endroit où je suis vraiment pertinente, c'est là-dedans. C'est écouter, c'est recevoir et c'est reformuler.
Donc, c'est ce que tu nous as décrit, c'est que tu prends... le temps d'analyser les questions que la personne se pose et de lui poser aussi les bonnes questions. C'est comme une approche de psychothérapie, de psychologie. Comment cela se combine avec le tarot divinatoire ?
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé. En fait, dans la pratique, dans ce qu'on fait avec les cartes, qui n'est pas gagner des points, on va dire ça comme ça, donc il y a la dimension qu'on va nommer oraculaire, c'est-à-dire on va tirer des cartes pour comprendre des choses ou pour avoir des perspectives. Donc comprendre des choses, on va mettre ça sous, disons, la grande famille du tarot psychologique. Voir des choses, on va mettre ça sous la grande famille du tarot dit divinatoire. Moi, je n'aime pas complètement le terme de psychologique parce que je pense que les personnes qui pratiquent le soin intuitif ne sont pas psychologues, ne sont pas formés à cela. Il y a très peu de regards sur les pratiques et ça peut donner lieu à des dérives. Et je dirais qu'une des branches du tarot psychologique, ça va être tous les enjeux de développement personnel. Donc ça va être souvent quelque chose qu'on fait soit avec soi-même pour entrer en introspection, pour comprendre pourquoi on n'arrive pas. Donc la formule la plus récurrente est « on n'arrive pas à être la meilleure version de soi-même ». La plupart du temps, quand on n'est pas satisfaite de la manière dont on agit, enfin, c'est toujours par rapport aux autres, dans le sens où c'est soit dans le cadre de relations, soit dans le cadre de comment est-ce qu'on considère qu'on voudrait fonctionner avec d'autres personnes. Si je dis ça, c'est que régulièrement, il y a un désir dans le développement personnel de plus de productivité, c'est-à-dire de comprendre comment est-ce qu'on pourrait arrêter les mauvaises habitudes, arrêter de faire ceci, ceci, comme ça, pour pouvoir mieux se vendre sur le marché, pour pouvoir être plus productif, pour pouvoir, etc. Et ça, c'est quelque chose qui fait que c'est compliqué pour moi de trouver quelle est la famille de tarot auquel j'appartiens, parce que je ne suis pas psy, je ne veux pas psychologiser des situations pour des personnes, je n'ai pas non plus envie de permettre aux personnes de devenir plus productive sur le marché concurrentiel. Et je ne veux pas me positionner sur le futur parce que je trouve qu'il y a trop d'enjeux. J'ai de l'estime pour les personnes qui se positionnent à cet endroit-là. Moi, ce n'est pas ce que je fais parce que je trouve que c'est assez déresponsabilisant. Oui, quand on est perdu, quand on en a marre de certaines choses, quand on a envie que notre vie, elle change, eh bien, c'est un réflexe assez humain que d'avoir envie d'être prise en charge, d'avoir de la sécurité. Et moi, ce n'est pas ce que j'offre. J'ai l'impression, assez régulièrement, les personnes viennent faire un tirage et dire « Ah, en fait, il va falloir que je réfléchisse. » Et oui, il va falloir réfléchir, oui, en effet. Et ça, ce positionnement-là, et le fait que, on va dire un peu les clichés sur mon métier, c'est une personne qui connaît les secrets de l'invisible et qui va les révéler, ça fait que je ne sais pas complètement comment me positionner, comment parler de ce que je fais. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas analyser ce qui va se passer. Par exemple, je peux dire, en ce moment, c'est la montée du fascisme. C'est fascisant. Peut-être je me positionne sur l'avenir par rapport à ça. Mais les données sont un peu plus larges que juste un quart d'heure de conversation avec une personne sur quelles sont ses thématiques. À l'écoute de Radio Campus 90.8 dans Radio Tarot. Merci pour votre écoute. Nous sommes ici pour parler du métier de cartomancienne et de comment il s'inscrit dans une dynamique plus large d'enjeux politiques et de soins.
C'est une approche très intéressante parce qu'en effet, tu proposes un cadre de soins individuels, mais en même temps, tu le positionnes dans un cadre politique. Comment ça se passe avec les personnes qui viennent te voir pour ça? Comment elles et toi, t'arrives à décliner ces deux choses ensemble?
Eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense qu'un de mes axes principaux, c'est de voir où est la responsabilité. Moi, je ne prendrai pas la responsabilité du futur. Mais je ne considère pas que la personne a l'entièreté de la responsabilité de sa situation. Ça paraît assez basique pour moi, mais bien des fois, on est dans des situations où on est victime d'injustice, de violence, et c'est important de ne pas culpabiliser d'être à cet endroit-là, en fait. Et j'ai l'impression que sur le travail introspectif, on a vite tendance, parce qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes 24 heures sur 24, hein, on a vite tendance à regarder avec peu de gentillesse comment est-ce qu'on fonctionne, les mécanismes qu'on met en place. Alors peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde. En tout cas, c'est mon cas et c'est le cas de pas mal de clients-clientes. C'est-à-dire la situation m'est désagréable, donc peut-être j'ai fait quelque chose pour le mériter. Il y a quand même régulièrement cet enjeu un peu de malédiction, de se dire j'ai fait quelque chose pour en arriver là. Et je pense que c'est une tendance individuelle, mais c'est quelque chose qui est acquis aussi, qui vient d'un certain discours et qui pour moi est un discours de rendre l'individu tout puissant. Et du coup, c'est un peu le pendant de la psychologie positiviste, en fait, c'est-à-dire c'est cette idée de quand on veut, on peut. Et ça c'est complexe parce que les espaces où je suis, c'est-à-dire la spiritualité sur les réseaux, regorgent de cette thématique-là, de quand on veut, on peut. Et ça, c'est déjà, c'est pas vrai. Et ensuite, pour le revers de la médaille, en fait, c'est extrêmement culpabilisant. À partir de quand on veut, on peut, ça veut dire si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on le veut pas assez fort. Et ça annihile, en fait, toute réflexion sur qu'est-ce qui nous amène à être un point précis, eh bien, en termes de structure, de dynamique politique, etc. Et en même temps, pour pouvoir vendre quelque chose, c'est vrai que c'est plus plaisant si on dit « Viens avec moi, ta vie va changer, tu es capable de tout, etc. » En fait, c'est important de s'offrir du soutien, c'est important de se regarder et de se soutenir et d'être présents les uns les unes pour les autres. Et il y a vraiment ce fil entre réussir à offrir ce soutien, cette écoute et cette capacité de s'épauler, sans dire que l'environnement, qu'il soit familial ou qu'il soit social, a pas d'impact dans la situation. Bon, c'était une réponse un peu longue pour dire c'est compliqué en fait. De voir quel est notre espace d'action en tant qu'individu au sein de structures beaucoup plus larges et de rapports de force et de rapports de domination. Et moi, régulièrement, ma réponse par rapport à ça, elle est de s'associer. Elle est de s'associer avec d'autres personnes qui traversent ou qui ont traversé les mêmes thématiques. Et donc, c'est vrai que ça participe de c'est quoi mes spécialités, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai traversé durant les 37 années qui ont été ma vie certaines choses. Et je me suis associée avec d'autres personnes. Et j'ai lutté pour plein de choses. Et du coup, ça me fait de l'expertise sur certains domaines et ça fait que du coup, il y a des questions que je me sens plus formée à aborder. Moi, en fait, ce qui me passionne, c'est les dynamiques de groupe. Et la plupart du temps, dans la cartomancie, on est seul avec les problématiques d'une seule personne. Et ça fait que je pense que je cherche encore où est-ce que j'ai envie de me positionner. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les enjeux relationnels, mais pas relationnels amoureux, quoi. Comment est-ce qu'on compose, comment est-ce qu'on se rencontre, comment est-ce qu'on s'associe, comment est-ce qu'on arrive à pas se perdre dans les problématiques d'autres personnes, c'est quoi les enjeux, quand est-ce qu'on rend service, quand est-ce qu'on est payé, etc. Et ouais, moi j'ai l'impression que ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'individu que son inscription dans un certain contexte. Donc quand je suis face à une personne, elle m'explique c'est quoi son inscription dans un certain contexte. Et ça, c'est une des questions qui est complexe dans le soin et dans l'introspection. C'est qu'en fait, on est fait de plein de choses. Et quand il n'y a que nous, il n'y a que nous à un moment donné. Et ça fait que c'est plus compliqué pour comprendre des choses.
Cette approche que tu nous as présentée, que c'est une approche unique, moi j'ai envie de poser la question, comment est-ce qu'elle est perçue quand tu te présentes auprès des personnes qui viennent te chercher pour une lecture de cartes, mais aussi comment est perçue quand tu dis quel est ton métier?
Alors je ne sais pas comment est-ce qu'elle est perçue par les personnes qui viennent se faire tirer les cartes, parce qu'en fait la plupart de ma clientèle sont des personnes qui n'ont jamais eu de tirage de cartes. Donc ça, a priori, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Je suis spécialisée en les premières fois. Du coup, ça fait qu'on rentre par mon approche. Tant mieux. tant mieux pour ces personnes-là. Je pense que c'est intéressant de commencer dans le cadre que je propose, c'est-à-dire un cadre qui n'est pas fataliste, qui est sans jugement et qui prend en compte les réalités sociales et les rapports de domination dans l'accueil et dans l'interprétation des cartes. C'est vrai que c'est spécifique. Je pense que je suis pas la seule à faire ça. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui pratiquent comme ça. On est quelques-uns une et c'est appréciable. Et c'est vrai que moi, quand je trouve quelqu'un où je sens qu'on se positionne de manière similaire sur des valeurs, et ben ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, c'est vrai que lors des tirages, je l'aborde très très vite. Je dis cette phrase qui dit « j'ai pas plus de lien avec le futur que toi ». Parce qu'en fait, dire autre chose, c'est un peu déposséder la personne de sa capacité d'agir. Et alors moi, s'il y a vraiment un truc que je veux pas faire, c'est ça. On a tellement d'espace où notre capacité d'agir, de choix, d'agentivité est restreint, et à la fois un discours que tout est possible, enfin... C'est assez complexe, en fait, de naviguer entre tout ça, parce qu'à la fois, il y a un discours de... En fait, ce qui définit l'individu, c'est sa possibilité de choisir. Et à la fois, il y a plein d'endroits où on est extrêmement contraint et où plein de personnes ont des avis sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, voire nous ordonnent de faire des choses. Alors, comment, moi, je suis perçue... Bon, alors, donc, moi, je suis cartomancienne, c'est mon métier. Et c'est pas facile. Après, moi, je suis habituée à avoir des métiers qui sont pas vraiment des métiers. Enfin, je pense que je me suis spécialisée là-dedans, des métiers où tu te dis c'est un petit job à côté, ou c'est pas des métiers faciles pour pouvoir louer un appartement, on va dire. Et là, particulièrement, j'ai l'impression d'être au cirque. Il y a plein de moments dans ma vie où je sais que j'ai été exotisée par qui je suis, pas sur les enjeux de coloration de la peau parce que je suis blanche, mais sur l'orientation sexuelle, sur d'où est-ce que je viens en termes de classe sociale, etc. Donc ça, j'ai un peu l'habitude. Mais alors avec le tarot, vraiment, c'est un peu... c'est étonnant, quoi. C'est le cirque, quoi. Et ça, je le vois aussi dans comment est-ce que je suis payée. C'est-à-dire que moi, je pratique le prix libre. C'est quelque chose que je trouve important politiquement. Donc on reprend ma clientèle, la plupart du temps sont des personnes qui n'ont jamais fait tirage, donc qui n'ont aucune idée de combien ça vaut. Moi-même, je ne sais pas complètement faire un prix indicatif. Aussi parce que c'est le début, aussi parce que je suis une femme dans cette société, donc c'est vrai que le travail de soin, eh bien, j'ai l'habitude de le donner gratuitement. Mais il y a des fois des choses qui ont été extrêmement ridicules. Et ça c'est assez dur pour le moral. Et si on reprend cet enjeu individu versus société, quoi, eh ben on peut être à différents endroits. On peut se dire, c'est moi qui ne sais pas assumer mes prix, qui ai des difficultés à estimer la valeur de mon travail. C'est moi qui ne fais pas assez d'éducation sur qu'est-ce que ça veut dire le prix libre. C'est-à-dire le prix libre, c'est pas juste la pièce que tu as dans la poche. C'est à combien tu estimes le travail de soin, le temps qui est pris pour plonger dans ta problématique, pour reformuler les questions, pour, grâce à des images, développer des pistes. Et il y a la dimension qui est sociétale, c'est-à-dire, les femmes font du travail gratuit d'accompagnement des problématiques, de réflexion sur, de poser ces questions qui permettent d'avancer, qui permettent de comprendre, d'être plus en lien avec leurs émotions, etc. Et tout ça se mélange et en fait, on alterne en fait, entre des moments où on se dit « Ah, je vois là où je dois progresser ou mon incapacité en fonction du niveau de fatigue émotionnelle qu'on a. » Et il y a en fait cette question de dire « Mais en fait, c'est pas juste. C'est pas juste que tout ce travail-là soit fait toujours par le même type de personne et la plupart du temps, extrêmement mal rémunéré. Et bien voilà, vous venez d'écouter Radio Tarot avec Maria en animatrice. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, c'était l'occasion de dire comment je vois mon métier, comment je me positionne, à quoi ça sert le tarot. Donc merci Maria, c'était un plaisir d'être là pour ta première fois à la radio.
Merci Alice.
Et on se retrouve dans pas si longtemps que ça pour le prochain épisode de Radio Tarot qui sera de nouveau en duo, mais où je retrouverai ma place classique, celle de la personne qui pose des questions, à une invitée incroyable que je vais aller voir pour l'occasion. À bientôt. Vous venez d'écouter Radio Tarot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un d'autre à qui il pourrait plaire. Et si vous voulez connaître les prochaines dates de sortie, rejoignez-moi sur Instagram @atropia. Merci pour votre écoute.